Résumé 100 ou 200 ans d'histoire en 30 minutes, je serai très schématique et je vous prie d'excuser les bizarreries dans la transmission du PowerPoint qui était correct sur le Mac mais qui sur PC a des distorsions étranges. Voici mon plan. Un premier point, une toute petite introduction sur le sens des mots. Puis les points 2, 3, 4 indiquent une périodisation de l'histoire de l'hygiène moderne, ses sources, son sommet et son déclin. Et une petite conclusion où je dirais que l'hygiène n'est cependant pas morte. Premier point, en guise d'introduction, le sens des mots. Vous savez que le dieu de la médecine a transmis au médecin son serpent comme symbole. Il avait deux filles, l'une de ses filles, Hygiée, la déesse qui conserve la santé, a donné à l'hygiène son nom. L'hygiène, définie par Nisten, le dictionnaire de médecine, comme la partie de la médecine dont la fin est la conservation de la santé, tandis que ce qui relève de panacée a pour fin la guérison des maladies. Oh, pardon. L'hygiène peut être publique ou privée. L'hygiène publique s'occupe des populations, tandis que l'hygiène privée s'occupe de la santé des individus. Cette distinction entre deux niveaux de l'hygiène existe dès l'Antiquité, puisque dès l'Antiquité la plus haute, des règles de sagesse hygiénique personnelle, qui sont par exemple formulées dans le livre de Galien, De Sanitate Tuenda, coexistent avec des disciplines d'hygiène collective, comme la prescription de ne pas manger du porc, ou de faire circoncire ses enfants mâles. La distinction entre l'hygiène ancienne et l'hygiène moderne fait allusion à une période d'éclipse de l'hygiène au cours du Moyen-Âge, du Bas-Empire romain et du Moyen-Âge, avec une reprise de l'hygiène explicitement au début du XIXe siècle. Cette transition a été bien souligné par Jacques Lambert dans une magnifique thèse de doctorat qui malheureusement n'a pas été publiée. Un coup d'œil sur les dictionnaires indique la progression de l'hygiène publique et sa retombée. Dans le premier grand dictionnaire de médecine en français, celui de Nisten, il y a une entrée d'hygiène assez petite, mais pas d'entrée hygiène publique. Tandis qu'en 1855, le Nisten, revu et corrigé par Littré et Robin, a deux entrées, hygiène et hygiène publique. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'elle dit. Puis la grande époque de l'hygiène est marquée dans le dictionnaire de Littré et Robin par une grande entrée hygiène, où on voit que l'hygiène en général est partagée entre mésologie et macrobiotique, mais il y a aussi des hygiènes particulières, et parmi les hygiènes particulières, on trouve l'hygiène publique. Mais aussi, vous trouvez l'hygiène morale, l'hygiène militaire, l'hygiène hospitalière, etc. L'hygiène se popularise ensuite, et vous avez une très grosse entrée hygiène de 4 pages dans le dictionnaire populaire de médecine usuelle d'hygiène publique et privée de Labarthe. Moins d'un siècle après, dans le dictionnaire de médecine Flammarion, dirigé par Amburger, une minuscule entrée hygiène de 9 lignes, l'hygiène est complètement retombée, pratiquement à zéro. Voici la définition de l'hygiène publique telle que donnée dans le dictionnaire de Nisten, revu par Littré et Robin. Et ce qu'il faut en retenir est, je crois, décisif pour l'argumentation qui suit. L'hygiène publique est une discipline scientifique c'est la médecine préventive. L'hygiène publique, c'est la médecine préventive. Son objet est la santé des populations ou la santé publique. C'est l'objet étudié par la discipline. L'hygiène publique intéresse les gouvernements. Donc, une collusion entrevue dès le départ entre politique et médecine. La montée de l'hygiène en Europe est contemporaine de l'urbanisation et de l'industrialisation, de la révolution industrielle. Et le domaine d'application de l'hygiène est immense, puisqu'elle embrasse l'étude du climat, de la nourriture, de la propreté, des bâtiments, des professions, des technologies agricoles et industrielles, des maladies infectieuses, des soins à donner aux pauvres, de la statistique médicale et de la législation sanitaire. Un domaine d'application immense. J'entre maintenant dans ma première période de l'histoire de l'hygiène, les sources. Je pense qu'on peut dire que l'hygiène moderne, l'hygiène publique moderne, est née avec trois événements. Chez les savants, l'apparition de la statistique sociale, ou selon l'appellation de Christophe Bernoulli, de la populationnistique, la science numérique des populations. Deuxièmement, sur le terrain, l'apparition dans les villes de conseils de salubrité. Et troisièmement, en médecine, l'introduction de l'hygiène dans l'enseignement médical. Je commence ici par mon premier point, l'apparition de la statistique sociale. Dans plusieurs grandes villes européennes, dès le XVIe siècle, on consigne sur des registres les événements vitaux, naissance, mariage, décès, avec progressivement l'indication de la cause de la mort. Ces registres font l'objet d'une exploitation statistique ou d'une interprétation statistique dès le XVIIIe siècle. Et au début du XIXe siècle, commencent les publications et apparaissent les grands organismes de statistiques qui vont publier régulièrement des statistiques vitales. L'un des premiers organismes est celui de la Prusse, pardonnez-moi de dire Prusse, moi je mets les pieds dans le plat, et les plus célèbres de ces institutions sont la London Statistical Society, 1834, l'American Statistical Association et la Commission Centrale de Statistique de Belgique. Ces données relevées par la statistique sociale peuvent être utilisées à d'autres fins que la santé et le bien-être des populations. Et les hygiénistes en ont très tôt conscience. Ceci est un texte de Louis-Adolphe Bertillon, l'un des grands précurseurs en France du mouvement hygiéniste. Il est tout à fait conscient que l'administration publique s'intéresse aux statistiques vitales essentiellement pour collecter l'impôt, que les penseurs, les théoriciens s'y intéressent pour faire de la science économique, et il faut quelques philanthropies, nous dit-il, pour exploiter ces statistiques en s'occupant d'une fin qui n'est ni intéressée ni purement théorique, à savoir le mieux-être des populations, sujet qui intéresse vivement les hommes, vie et mort, santé-maladie, moralité, instruction, famille, profession, bien-être, en un mot, l'état civil et social. Seconde source de l'hygiène moderne, dans les grandes villes, à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, apparaissent des conseils de salubrité ou boards of health. Ces conseils se mobilisent en cas d'épidémie. Ils comptent les cas de maladie, les cas de variole, les cas de choléra, les cas de peste. Il traite des questions de voirie, d'adduction d'eau, d'élimination des eaux usées. Il rédige des rapports et constitue des documents extrêmement riches qui vont servir ensuite au développement de la réflexion sur ce qui se passe. L'un des plus célèbres des rapports exploitant des données d'une commission, c'est le rapport de Shattuck sur la commission sanitaire du Massachusetts. Troisième source de l'hygiène moderne, l'apparition dans le cursus médical d'un enseignement de l'hygiène. Cette introduction a été faite en France par Jean-Noël Hallet, qui en 1806 publie le premier traité d'hygiène en français, encore très inspiré de Galien et de formes très littéraires. Mais tout de même, les médecins commencent à apprendre l'hygiène dans leur cursus. Le traité de Michel Lévy, traité d'hygiène publique et privée, a été le manuel des étudiants en médecine pendant de nombreuses années au XIXe siècle, et il a eu de nombreuses rééditions qui s'enrichissent de documents les unes après les autres. Le style est encore assez littéraire. En Grande-Bretagne, le manuel de Parkes commence à être un manuel un peu plus technique, et c'est un manuel d'hygiène militaire, d'hygiène des armées. Adrien Proust et Émile Bertin, dans la seconde moitié du siècle, donnent des traités qui sont bourrés d'informations et fondés sur les rapports des commissions locales. Adrien Proust est le père de Marcel Proust, l'écrivain, et le traité de Jules Arnoux a fait la loi en médecine encore au début du XXe siècle. Apparaissent également au XIXe siècle des journaux scientifiques de grande qualité. Je mentionne ici celui qui a été démarré par Parents du Châtelet en France, les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, qui démarre en 1829 et qui a fidèlement été publié jusqu'au premier tiers du XXe siècle. Et la série qui a été lancée par Pettenkofer à Munich, Archiv des Hygiene, démarrée en 83 et qui existe encore d'une certaine manière à travers ces transformations successives. Enfin, je veux indiquer brièvement que ce mouvement hygiénique né en Europe et en Amérique du Nord a des ramifications dans d'autres pays. Je cite ici trois manuels d'hygiène japonais. Celui de Shibata a été très influencé par à la fois les écrits de Pettenkofer et le manuel de Parkes. Donc la filiation est directe. Je suis encore dans la première période, c'est-à-dire dans la première moitié du XIXe siècle, et j'observe qu'à cette époque, les précurseurs du mouvement hygiéniste, qui sont des philanthropes, ces philanthropes dont parle Bertillon Père, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des médecins humanitaires, sont des médecins statisticiens. C'est une extraordinaire génération de médecins statisticiens qui utilisent les chiffres pour mettre en évidence au niveau des groupes de population un certain nombre de faits. Ainsi, Villermé, dans son rapport sur la santé des ouvriers employés dans les manufactures de soie, de coton et de laine, un rapport très célèbre paru en 1839, s'intéresse à la fréquence de la tuberculose pulmonaire chez ces ouvriers et lie cette observation au fait qu'ils respirent des poussières. La notion de germe n'est pas encore présente, que la lutte contre la tuberculose est déjà commencée et qu'elle portera déjà ses fruits. En Grande-Bretagne, les plus célèbres des précurseurs du mouvement hygiéniste sont Chadwick et Farr. Edwin Chadwick est l'un des seuls des précurseurs qui n'est pas médecin, c'est un juriste de formation qui a été l'assistant de Jeremy Bentham, et qui publie en 1942 son très célèbre report on the sanitary condition of the laboring population of Great Britain, rapport dans lequel, tout en déplorant la qualité misérable de la santé des habitants des villes, il attribue cette mauvaise santé des habitants des villes à l'impureté de l'atmosphère. Chadwick est encore complètement attaché à la théorie des miasmes, dire la cause des maladies infectieuses et d'à peu près, et ce qui aggrave toutes les maladies, c'est la qualité très médiocre de l'air en ville, le confinement de l'air dans des logements trop petits où s'entassent trop de personnes. Et l'un des grands messages de cette première génération d'hygiénistes, c'est qu'il faut aérer, il faut faire circuler l'air dans les villes. Quant à William Farr, il s'est occupé pendant des années, c'est connu, du General Register Office for England and Wales, et il commence à faire quelques observations qui tiennent à la médecine du travail. Il montre, sur la foi d'observation faite en 48-53, que les mineurs qui travaillent dans les mines de métal ont une longévité moindre que les mineurs de charbon. Et il conclut qu'il y a des dangers liés à cette profession de mineurs de métal. Au milieu du XIXe siècle, ce mouvement hygiéniste qui a eu ses grands précurseurs débouche sur des lois, des institutions, et il s'internationalise. Je cite seulement une loi, elle est célèbre, le Public Health Act en Grande-Bretagne. Il y a eu précédemment en Grande-Bretagne une législation depuis 1833 concernant la durée du travail maximale qu'on peut imposer aux enfants, 48 heures par semaine avant 12 ans et de 13 à 18 ans, pas plus de 69 heures par semaine. La France a suivi, l'Autriche a suivi, la Prusse a suivi. Ça, c'est la législation concernant le travail des enfants. Pas plus de 69 heures par semaine, vous avez bien entendu. Naissent aussi, au milieu du XIXe siècle, de grandes institutions. En France, le Comité consultatif d'hygiène publique. En Belgique, le Conseil supérieur d'hygiène. En Angleterre, la London Epidemiological Society. Et à l'initiative de Ketley, le Belge, commence toute une série de congrès internationaux, congrès qui sont des congrès de démographie ou des congrès de statistiques ou des congrès d'hygiène, et souvent les deux ou trois associés. La création dans l'Allemagne unifiée de ces organismes de statistiques a lieu plus tard, puisque l'Allemagne s'est unifiée qu'à la suite de la guerre de 70. Et aux États-Unis, le National Board of Health apparaît seulement en 1879. La philosophie sous-jacente à ce mouvement hygiéniste, c'est, on peut le dire, la philosophie des Lumières, et je l'illustre par cette citation encore de Bertillon Père, dans un magnifique livre qui s'appelle « La démographie figurée de la France », livre dans lequel il établit un lien direct entre la connaissance scientifique et le gouvernement, l'objet du mouvement hygiéniste, c'est d'obtenir une législation appuyée sur la connaissance des phénomènes sociaux, d'obtenir une administration éclairée dans ses agissements, éclairée par la science. Et l'objectif final et de réformer les mœurs. Réformer les mœurs. Donc, connaître le corps social pour bien l'administrer, ce qui veut dire que la croyance naïve des hygiénistes, c'est qu'il y a un passage naturel et direct, sans problème, sans difficulté, depuis les lumières de la science, en passant par de bonnes lois, jusqu'à la réforme des mœurs et le mieux-être social, sans problème, de l'un à l'autre. Je pense que c'est ça qui a tué l'hygiénisme, de ne pas avoir vu qu'il y avait un problème de la collusion de la science avec le pouvoir. Et ce problème existe encore pour la santé publique. On n'a rien changé en changeant les mots. J'arrive à la période glorieuse de l'hygiène publique. L'hygiène publique universelle, c'est le dernier tiers du 19e siècle. Je peux dire que le déclin commence même avant la fin du 19e siècle. Symbolique de cette période d'acmé, de gloire de l'hygiénisme, c'est l'année 78. Pour les raisons que je vais examiner un peu plus en détail, premier fait, la municipalité de Munich crée le premier institut d'hygiène placé sous la direction de Max von Pettenkofer, institut qui, à travers des changements historiques, existe encore. Deuxième événement, le second congrès international d'hygiène se réunit à Paris et ses 1000 participants se livrent à un échange extrêmement constructif sur l'information réciproque sur les politiques hygiéniques des pays. Et enfin, troisièmement, les normes hygiéniques s'imposent désormais aux administrations sans problème. Premier fait, l'Institut d'hygiène de Munich. Qu'est-ce que cet événement a représenté dans l'histoire de l'hygiène publique ? Elle a représenté, selon le commentateur des annales d'hygiène publique et de médecine légale, le fait que l'hygiène a pris rang parmi les sciences positives. Avec la création d'un laboratoire d'hygiène doté de salles de conférence, doté de nombreux chercheurs et d'un nombreux personnel, l'hygiène devient une science expérimentale. Et les médecins qui suivent cet enseignement hygiénique, ayant appris l'hygiène dans des travaux pratiques, deviennent sur le terrain des ingénieurs de la société, des techniciens qui sont capables de faire sur place, sur le terrain, l'analyse d'une eau pour dire si elle est potable, sont capables de détecter les falsifications des denrées alimentaires, sont capables d'identifier au microscope les poussières et de les différencier des germes, sont capables de donner des conseils aux directeurs d'école sur la taille des salles et la ventilation des locaux, et dans les manufactures, les médecins deviennent des conseillers indiquant les risques liés au poste de travail. C'est le premier fait. Deuxième fait, l'hygiène, lors du congrès international de 1878, soulève les questions qui, à son agenda, sont principalement la question de la mortalité infantile. Dans la première année de vie en France, dans les années qui précèdent le congrès, 190 pour 1000, hein, une mortalité qui paraît effroyable, mais qui en Europe peut être plus faible, mais aussi beaucoup plus importante pour les enfants assistés confiés à des nourrices mercenaires. 900 pour 1000. La seconde question d'actualité est celle des égouts. Et on discute longuement à ce congrès international sur le point de savoir s'il faut se débarrasser, si les villes doivent s'équiper pour éliminer les matières fécales séparément des eaux usées ou avec les eaux usées. l'Angleterre a choisi la seconde solution et Paris a choisi la première solution depuis des années. Bon, je signale d'autre part qu'il y a dans ce congrès international une riche discussion sur l'architecture des cités ouvrières, mais j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et je note aussi que en 1878, c'est-à-dire avant les découvertes de Pasteur, la question des épidémies, la question des maladies infectieuses est déjà presque dépassée. Il y a encore en 1873 une épidémie de choléra en Prusse, mais on sait comment désormais endiguer les épidémies. On sait faire sans connaître les causes. Le troisième fait extraordinairement prégnant de cette glorieuse époque de l'hygiène, c'est que l'autorité des normes hygiéniques s'impose sans difficulté. Au 11e congrès international d'hygiène et de démographie, les deux sont liés, en 1903, à l'ouverture du congrès qui se tient en Belgique, le prince Albert de Belgique fait un discours où il note que l'intervention toujours plus active de la loi dans la protection de la santé publique est un principe accepté par toutes les nations civilisées et plébiscité par l'opinion publique. Plébiscité, donc accepté sans aucune difficulté. Les lois s'ajoutent aux lois et le peuple les accepte. Ça va changer. En pratique, sur le terrain, l'application de ces normes hygiéniques n'est pas toujours si simple. Je donne ici l'idée de quelques petites difficultés sur le terrain quand il s'agit de mesures prophylactiques. Il y a par exemple la bataille des conserves. Les légumes verts en conserve sont reverdis au sulfate de cuivre. Un arrêté ministériel en France, 1860, interdit de mettre du sulfate de cuivre dans les conserves. Les fabricants de conserves refusent d'obéir parce qu'ils vendront moins de conserves si les haricots ne sont pas verts. Le comité d'hygiène publique de France intervient, étudie savamment et conclut que oui, le cuivre est toxique, mais ça dépend de la dose et on peut peut-être fixer la dose admissible dans les conserves, et ainsi de suite. Je passe sur la bataille des truites, gênées par la pollution, les pêcheurs se sont plaints, les coliques de plomb chez les ouvriers serruriers ont prescrit le lavage obligatoire des mains avant les repas, et après ça, si les ouvriers sont malades, c'est leur faute. Ainsi s'établit le jeu complexe de la fraude, de la répression et du compromis après la fraude. Autre difficulté sur le terrain, dans les applications positives de l'hygiène, on parle de lutte contre la décadence du corps, c'était une expression de Arnoux dans son traité, on parle d'améliorer la qualité de la population, et vous voyez cette description qui est dans le manuel d'hygiène de Bertin, description d'un enfant chétif qui se tient tout voûté, qui a peu de force physique et peu d'énergie morale, et à qui il faut donner de l'air, de l'exercice, des bains froids et une nourriture fortement azotée, c'est-à-dire des protéines. Quand on en est là, c'est bien. Quand on pactise avec des tentations eugénistes, c'est un peu moins bien. Et c'est ce que l'hygiénisme a fait au cours du début du XXe siècle. Alors, de quoi rêvent les hygiénistes? Ou quels sont les excès de l'hygiénisme qui ont provoqué ultérieurement son déclin? Les excès des hygiénistes ou de leurs rêves, c'est qu'il souhaiterait, à la limite, un encadrement rationnel, mais aussi totalitaire, de la vie quotidienne des gens pour préserver leur santé, c'est-à-dire avec les meilleures intentions. Cela passe par une politique hygiénique qui est une politique scientifique ou supposée scientifique dont l'administration et la police sont les relais. Il est alors dans l'ordre des choses, et c'est ce qui s'est passé en France, c'est une description qu'on trouve, hein, que l'administration et la préfecture de police contrôlent les prostituées, assurent l'isolement des femmes syphilitiques, et William Farr demande avec impertinence pourquoi seulement les femmes, que la police inspecte les logements présumés insalubres, prescrive des réparations, que l'administration fixe la hauteur minimum des chemises d'usine, réglemente la forme des sièges de cabinet dans les écoles, impose la vaccination, etc., etc. L'encadrement complet de la vie du citoyen. Troisième période, l'extension du mouvement, sa fragmentation, sa dispersion, c'est-à-dire son déclin et sa quasi-disparition au cours du XXe siècle. Je vois les prodromes de ce déclin déjà dans des textes du Congrès international d'hygiène et de démographie réuni à Paris en 1989. C'est Brouardel, le médecin légiste, qui préside la séance d'ouverture et il souhaite la bienvenue. Alors, il y a deux faits dans ce congrès qui sont marquants. D'une part, l'apparition d'une nouvelle génération d'hygiénistes à qui Brouardel dit « Nous, les anciens, nous avons construit les laboratoires dans lesquels vous, vous allez travailler. » Les anciens ne savaient pas travailler au laboratoire. Les anciens étaient plutôt des statisticiens, des mathématiciens. Donc une nouvelle génération d'hygiénistes apparaît. Et dans cette génération, second fait marquant, il n'y a plus que des médecins. Les médecins sont même en minorité. À côté des médecins, vous trouvez au Congrès international, et salué par Brouardel dans son discours, des ingénieurs, des administrateurs, des chimistes, des architectes, et fait encore plus renversant. Selon Brouardel, la plus formidable des révolutions qui ait jamais secoué la médecine, à savoir l'œuvre de Pasteur, on est en 89, et Pasteur commence à avoir un retentissement dans les années 80. Pasteur n'est pas médecin, il est chimiste. Alors, on mentionne bien sûr, on salue la mémoire de Koch et de sa découverte du bacille de la tuberculose, mais le grand homme, considéré par Brouardel comme le grand homme de l'hygiène, va être, à mon avis, celui dont l'œuvre va tuer le mouvement hygiéniste. À l'agenda du congrès de 89, des sujets traditionnels avec un petit peu de renouvellement. Parmi le sujet maladies infectieuses, on voit apparaître les maladies exotiques explicitement nommées ainsi. Il faut que je termine. Donc les problèmes de la police des ports. Bon, je passe les problèmes traditionnels. En France, la question de l'alcoolisme est particulièrement importante. Mais ce qu'on voit apparaître dans ce congrès de 89, c'est d'une part les conflits d'intérêts. Lorsqu'une épidémie arrive d'Extrême-Orient, le réflexe en Europe, c'est de bloquer les ports. Mais si on bloque les ports, on fait du tort au commerce. Et il y a conflit entre les intérêts des commerçants et les intérêts de la santé. Ça, c'est quelque chose que les hygiénistes n'avaient pas prévu. Il y a aussi des conflits doctrinaux, et des conflits doctrinaux très difficiles à résoudre. Vous avez l'école de Munich, celle de Bettenkofer, qui défend encore la théorie que c'est le sol qui est la cause des maladies, alors que d'autres, en Grande-Bretagne par exemple, ou en France, accusent maintenant les germes grâce à Pasteur. Alors, que faut-il faire contre les maladies infectieuses? assécher les marais, on l'a beaucoup fait contre le paludisme, ou bloquer les ports. On voit aussi apparaître une industrie nouvelle, le génie sanitaire. En 91, naît un nouveau journal de langue française qui aura une longue... 1880, pardon. Les annales d'hygiène et de médecine coloniale, qui deviendra les annales de médecine et de pharmacie coloniale. Vous voyez, un petit signe, le mot hygiène disparaît dans l'histoire de ce journal. Et parallèlement, l'hygiène comme discipline se fragmente en de multiples sous-disciplines. Je passe là-dessus. Au cours du XXe siècle, la fragmentation s'accentue. Les architectes qui étaient présents au congrès d'hygiène dans les années 80 et jusqu'en 1900, disons, fondent en 1911 en France la Société française des architectes et urbanistes sous l'égide du musée social, et désormais ils n'iront plus au congrès d'hygiène. C'est la tradition qui a donné les travaux de Le Corbusier. D'autre part, à mesure que les anciennes colonies de pays européens accèdent à l'indépendance au cours du XXe siècle, leurs institutions d'hygiène s'autonomisent. Par exemple, vous avez encore aujourd'hui une association africaine de microbiologie et d'hygiène alimentaire qui est gérée de la ville de Sousse en Tunisie. Enfin, en Europe, les institutions d'hygiène continuent de fonctionner, mais la faveur populaire se déplace lentement vers l'écologie. D'une certaine façon, les soucis écologiques sont les mêmes que les soucis des hygiénistes. Alors, comment expliquer la désaffection à l'égard de l'hygiène ? Je pense que les travaux de Pasteur sont en partie responsables. Ensuite, les progrès de la médecine curative entraînent un désintérêt à l'égard de la médecine préventive. Une fois que chacun individuellement se lave les mains, se désinfecte son appartement, il n'y a plus besoin d'hygiène collective. D'autre part, la tyrannie des lumières hygiéniques au cours du XXe siècle a été de plus en plus mal supportée. Et j'en veux pour symbole cette adresse du pape Paul VI aux participants du Congrès international d'hygiène et de médecine préventive de 1968. Il y a quand même un congrès international d'hygiène encore en 1968. Paul VI souligne que les exigences de la personne ne doivent pas être perdues de vue, qu'il faut tenir compte de la liberté et de la responsabilité personnelle, et qu'une médecine collective, une hygiène publique, est dangereuse pour les libertés individuelles. Enfin, certaines thèses hygiéniques au cours du XXe siècle ont été progressivement contestées. Par exemple, on disait « il faut vous laver les mains, désinfecter, tout, hein ». La propreté, c'est bien, mais trop de propreté, ça favorise des maladies immunitaires, catastrophe. En manière de conclusion, ce que je voulais dire, c'est que l'hygiène privée était dans l'Antiquité une philosophie morale, l'hygiène publique est une philosophie politique, et la faute des hygiénistes a été de ne pas tout à fait s'en rendre compte, d'y réfléchir sur ce que ça signifie que de faire une philosophie politique. La foi des hygiénistes militants était que la connaissance scientifique fournit des normes de bon comportement qui peuvent être imposées pour leur plus grand bien aux populations par un gouvernement éclairé qui s'appuie sur la police et l'administration. Alors, je pense que ça n'a plus d'intérêt de poser la question « est-ce que c'est les scientifiques qui ont instrumentalisé l'administration ou est-ce que c'est l'administration qui a instrumentalisé les scientifiques ?» Mais la question qui se pose encore aujourd'hui, c'est comment tenir la juste distance entre l'expertise scientifique et la politique de santé. Il me semble que l'évolution des choses nous montre que l'hygiène a plutôt viré vers la technique au ras de l'expérience quotidienne, alors que la santé, ce qu'on appelle aujourd'hui la discipline de la santé publique, tend à s'occuper des choix politiques globaux. Mais en même temps, l'hygiène publique, à mon avis, n'est pas morte. Et j'en ai trouvé deux preuves sur Internet. Cette annonce, en Allemagne, l'hygiène remonte à la surface. Et en France, la Société française d'hygiène hospitalière, créée en 1982, tiendra son prochain congrès dans 3 semaines à Strasbourg, au Palais des Congrès. Cette société d'hygiène est une société savante, elle a une revue, elle prône les bonnes pratiques d'hygiène et elle rend hommage à quelqu'un que je n'ai pas mentionné, mais que j'aurais dû mentionner parmi les précurseurs, Ignaz Semmelweis. Elle s'occupe des infections nosocomiales en maternité qui viennent, nous dit-on, par bouffées épidémiques, le langage des hygiénistes. Voilà la bibliographie. Je vous remercie.